Ne manquez pas l'émission Country sans limite tous les samedis matins de 6h à 10h. Une fière présentation des résidences Soleil, là où tous les aînés ont les moyens. 1-800-363-0663.
J'adore le café, surtout le matin. Et l'après-midi. Et juste après le souper. Finalement, j'aime ça tout le temps. J'aime mon café fraîchement torréfié, savoureux, avec beaucoup d'arômes, comme celui de la brûlerie Mademoiselle Café, qui concocte des breuvages exceptionnels, en plus de torréfier leur propre mélange de café chaque semaine sur place. Ils vous offrent un produit de haute qualité, toujours frais. Je peux même commander en ligne et profiter de rabais alléchants avec mon abonnement. Je ne manque plus jamais de café. Mademoisellecafé.com.
Vous rêvez d'un plancher de bois? Passez maintenant à l'action chez Lanctot Couvre-Sol Design. Jusqu'au 28 avril, profitez d'un rabais de 15% avant taxe à l'achat d'un plancher Mercier sélectionné. Pour économiser, visitez nos boutiques Lanctot Couvre-Sol Design de Longueuil ou Saint-Isidore. Des conditions s'appliquent.
Nouvelle FM 103.3.
Il est midi. Ici Henri-Paul Raymond. Le Bureau des enquêtes indépendantes a ouvert une enquête à la suite d'une intervention du service de police de l'agglomération de Longueuil le 26 mars dernier. L'enquête a été ouverte le lendemain et elle concerne une personne en crise appelée par le 911 vers 19h ce mardi soir. Les policiers ont tenté de contacter l'individu à son domicile et l'ont trouvé inerte, son décès ayant été confirmé sur place. 5 enquêteurs du BEI visent à éclaircir les circonstances de cette intervention. Aucun service de soutien d'un autre corps de police n'a été requis pour cet événement. Le bureau ne donnera aucun autre détail relatif à cette enquête. Il a rendu l'information publique le 28 mars dernier. L'éco-centre du secteur sud de la MRC de Marguerite-Diouville, situé à Varennes, rouvre avec une infrastructure améliorée. Les activités reprennent après une fermeture de 2 mois pour rénovation. Ce projet, soutenu par une aide financière de 150 000 $ de Recycle Québec, vise une expérience utilisateur optimisée. D'ailleurs, la MRC offre un chargement gratuit de 200 pieds cubes par adresse résidentielle dans son territoire et à Saint-Antoine-sur-Richelieu, excluant les ICI. Les ICI sont les institutions, commerces et entreprises. Elles l'offrent donc pour compenser la fermeture durant l'hiver. Les horaires sont prolongés puisque dès le 9 avril, le service à Varennes sera offert du mardi au dimanche de 8h à 16h, sauf le jeudi avec une fermeture à 18h. L'éco-boutique va reprendre son activité les week-ends et ce, dès le 13 avril prochain. Le PDG de Northvolt Amérique du Nord, Paolo Cerutti, a exprimé mercredi sa surprise face aux controverses liées à l'environnement, rappelant que l'entreprise vise à répondre à l'urgence climatique. Northvolt rappelle souhaiter implanter durablement sa méga-usine de batterie en Montérégie. Le projet représente un investissement de 7 milliards de dollars, soutient le PDG. Pourtant, l'entreprise est confrontée à l'obtention d'une série d'autorisations pour avancer. Malgré les défis comme la nécessité de protéger des espèces menacées telles que le chevalier cuivré, Northvolt explore des solutions alternatives pour minimiser son impact écologique. Paolo Cerutti a l'intention de partager les principaux documents en lien avec le BAP et avec les autorisations ministérielles via le site Internet de l'entreprise. En dépit des critiques également, Northvolt reste déterminé à produire des batteries à empreinte carbone considérablement réduite. Elle promet d'utiliser 50% de matériaux recyclés et d'embaucher 3000 employés locaux. C'est aussi une façon de contribuer significativement à l'économie québécoise, ajoute M. Cerutti. Northvolt indique avoir signé des contrats totalisant 138 millions de dollars avec des fournisseurs québécois depuis l'ouverture de son siège social nord-américain à Montréal. Un projet du groupe de développement Delcon Limité de 800 unités de logements abordables continue de prendre forme à Longueuil. L'entrepreneur général et constructeur du projet Développement Dubel Limité a procédé hier à la présentation de la phase 1 du projet de 4 phases au total. Selon la députée de Longueuil-Charlemagne, Sherry Romanado, l'endroit ne pouvait pas être mieux choisi pour bâtir ses habitations.
Honnêtement, c'était un endroit idéal. On a le pont Victoria, le pont Jacques-Cartier, métro Longueuil, ainsi que le IBM, qui n'est même pas 10 000. D'ici, on a l'employeur, le plus grand employé sur la Rive-Sud, dans mon comté, qui est l'hôpital Charlemagne, qui est juste à côté. On est à côté du boulevard Taschereau.
C'est complet. Pour plus d'informations, visitez le fm1033.ca.
Développement économique de l'agglomération de Longueuil, fier partenaire de l'entrepreneur branché. Dell, le bras droit en affaires des entreprises de chez nous. Visite delaglo.ca. L'entrepreneur branché avec Max Trudel au FM 103.3.
Bon jeudi midi à tous, Max Trudel avec vous dans la tempête. Aujourd'hui, on vous souhaite d'être à l'intérieur avec idéalement de l'électricité ou sinon un petit feu de foyer, puis ça nous donne une journée de congé impromptue peut-être pour certains. Donc, on va vous tenir compagnie pour la prochaine heure, puis on va avoir de la très bonne compagnie alors que j'ai avec moi Mathieu Galland, entrepreneur en série qui a plein de belles leçons pour nous les entrepreneurs un petit peu trop stressés et pour les autres qui vivent dans le monde de fou où on est. Et par la suite, Annie Boilard viendra nous ramener un petit peu. On est en février, hein, aujourd'hui, si on regarde dehors. Donc, elle nous ramènera à la Saint-Valentin. Elle parlera amour au travail. Donc, restez avec nous. On va essayer de mettre un petit peu de soleil dans votre midi. Et commençons tout de suite. Mathieu Galland, bienvenue à l'émission.
Hey, bonjour.
Mathieu, tu as un parcours assez, je veux dire, rempli. Co-fondateur de Cru d'essence, Rice Kombucha, Fondation Géosophie, fondateur de Mana Méditation. Est-ce que j'en oublie rendu là?
Ah, il y a plein de petits détails autour, mais ça, c'est les principaux, en effet.
C'est quoi? Parle-nous de toi un peu. Là. Qu'est-ce qui a généré ce parcours-là? Quel genre de bibitte t'es là, dans le milieu de l'entrepreneuriat?
Ben, je pense que je suis pas nécessairement une bibitte de l'entrepreneuriat. En effet, je pense que je suis un aventurier avant tout. T'sais, juste pour venir ici là dans la tempête à la bonne heure, je m'aperçois que dans le fond c'est comme une impulsion assez profonde, tu sais, qui m'a amené dans l'entrepreneuriat.
Donc, tu avais un peu la personnalité, puis après ça les projets t'ont drivé?
Peut-être. Moi, je pense que ce qui m'a vraiment appelé là-dedans, c'est comme une quête de sens. À vrai dire, tu sais, je pense que quand j'étais plus jeune, je trouvais que la société tournait bizarre, là, puis je trouvais pas vraiment ma place. Mais je me suis vraiment reculé dans un monde plus spirituel, dans une quête là de sens, là, vraiment. Puis on pourrait dire que c'est ce que j'ai touché à l'intérieur, les valeurs que j'ai découvert, que ça a fait une fondation qui m'a ramené dans le monde. Et d'où les entreprises qui ont...
Et là, tu avais le goût, finalement, de partager un peu cette vision-là, ces acquis-là.
Oui, à travers des entreprises qui sont comme à impact social. Dans le fond, tu sais, je veux participer dans le grand mouvement social, on pourrait dire, de pas d'éveil, là. Tu sais, c'est un peu comme perché, mais c'est plus comme de bien-être, mais un bien-être qui est assez profond, là. Tu sais, de toucher l'essence des gens.
Profond et quand même accessible. On n'est pas dans le trait, je ne veux pas dire ésotérique, là, mais quand on essaie de se dissocier de la société au complet, tu as quand même lancé des produits, des choses qui s'intègrent dans, je veux dire, la vie de 2024, dans l'économie de 2024, tout ça, puis c'est ce qui en a fait un peu le succès.
Ouais, c'est clair qu'on s'adresse, tu sais, comme aux enjeux du monde, tu sais. Puis au début, tu sais, avec l'alimentation, c'était vraiment de dire, hey, des fois, ça va pas bien dans ta tête, mais des fois, c'est parce que ça va pas bien dans ton corps puis dans ton alimentation. Puis avec le kombucha aussi, dans le fond, c'était un peu pour sortir comme du monde du pop drink, tu sais, puis d'amener comme des notions de santé. Mais les notions de santé, quand on les suit, ils vont assez profondément, tu sais, parce qu'on se met à parler de santé émotionnelle, puis de santé mentale, puis de santé plus intérieure. Mais dans le fond, c'est ce filon-là qui me motive le plus.
C'est vraiment le fait de vouloir se faire du bien à soi-même, finalement, qui a drivé tes différentes aventures.
À moi, tu sais, puis aussi de partager ce bien-être-là autour de moi, parce que je pense que le constat que j'arrivais, c'est que si j'étais pas bien dans le monde, ben, je pouvais contribuer quand même qu'il soit un petit peu meilleur.
Et là, tu me disais, t'es plus nécessairement impliqué dans toutes les entreprises que t'as lancées en ce moment. Comment tu fais justement pour te détacher? Parce que quand on lance quelque chose, généralement, c'est parce qu'on y est attaché, on y croit, c'est notre bébé, comme on dit souvent. C'est quoi le processus pour dire, OK, là, j'ai fait mon temps là, j'ai une autre idée, je vais lancer autre chose maintenant?
Quelle intéressante question. Des fois, quand je commence à imaginer un projet, j'imagine aussi sa fin. Ou, tu sais, comme on dirait que je l'inclus déjà dans un temps qui n'est pas comme continu, tu sais, qui est cyclique, tu sais, puis que puis ça m'aide dans le fond, tu sais, de donner le meilleur de moi en sachant que il va avoir d'autres cycles, tu sais, comme puis il va peut-être ralentir, il va peut-être mourir, il va peut-être se transformer, puis peut-être que moi, hein, je vais être appelé à un projet encore plus intéressant où ce que j'en suis rendu dans ma vie. Puis moi, j'aime ça créer les projets. Quand il faut les maintenir, ça c'est un petit peu plus délicat. J'ai besoin de bien m'entourer.
Mais... Donc le projet a son cycle. Tout a ton cycle dans le projet en voilà. parallèle. Puis, parce qu'on s'entend que les projets ne sont pas morts. Toi, t'es passé peut-être un peu à d'autres projets, à autre chose. Mais eux continuent. Quand on pense à Rice Kombucha, ça continue à avoir du succès. Là.
Oui, sans moi. Puis dans le fond, je pense que une des sagesses, c'est de reconnaître les cycles de l'entrepreneuriat, puis ses cycles personnels, puis quand on s'aperçoit qu'on est trop stressé ou comme compressé dans le temps, puis qu'on perd le sens de qu'est-ce qu'on fait, ben là, il faut se demander, OK, si je suis dans quel cycle, y a-t-il d'autres choses pour moi qui est plus vivant, qui va comme me ramener à la vie? Parce que sinon, on s'aperçoit qu'on s'étouffe, là, puis on devient gris. Puis si l'entrepreneur devient gris, tout comme les employés, ben, on impacte la business, évidemment.
Puis elle aussi va en souffrir de ce côté-là. Puis on a souvent le réflexe de dire, t'sais, quand on se retrouve un peu dans cette situation-là, je pense on va réaligner la business. Ouais. On va changer la business. Moi, je m'y plais plus. Je vais ramener ça à quelque chose que je me plais. Mais des fois, la business, elle a du succès là-dedans. Probablement, les employés, eux, ils s'y plaisent. Puis ça demande quand même une grande introspection. C'est-à-dire, c'est peut-être pas la business qui a besoin de changer. C'est moi. T'sais. Je sais pas quel conseil tu peux nous donner là-dessus. On dirait que comme entrepreneur, je vois tout le bienfait de ça. Je vois tout le potentiel. Mais je me dis, waouh, est-ce que je serais capable de me dire, ah non, là, j'ai fait mon temps, la business va continuer sans moi, va être capable, je vais regarder de décrocher, de faire autre chose.
C'est encore très intéressant de le voir que, dans le fond, c'est pas toi qui vas le décider. C'est le cycle. Tu sais, c'est comme la méditation. Puis moi, tu sais, la méditation est à la base de mon to-do list. Là. Tu sais, avant de me pitcher dans mon to-do list, je prends du recul, je zoom out, je regarde qu'est-ce qui est vraiment important à faire aujourd'hui. Puis, je vais m'offrir aussi des moments de réflexion beaucoup plus profonde pour entendre ou pour contempler, on pourrait dire, puis d'aller chercher l'intuition ou le côté inspirationnel, créatif. Puis c'est ça, c'est ce côté-là, on pourrait dire, de génie qui va nous guider. Puis ça, ce génie-là, c'est important parce que la plupart des découvertes scientifiques ou des grandes œuvres d'art sont pas comme créées empiriquement. Ils sont inspirés. C'est comme il y a une intuition qui arrive. Le scientifique va faire une nouvelle hypothèse puis il va pouvoir sortir comme des chemins battus. Puis je pense que c'est la même chose pour l'entrepreneur. Si l'entrepreneur est déconnecté de son intuition, de sa créativité, de son impulsion, de son cœur, de sa vision profonde, du sens... Ben, il va répéter la même chose. Et nécessairement, la business, elle va pas fleurir.
Donc, c'est de se laisser porter un peu par sa créativité puis de s'assurer de continuer de l'incarner comme entrepreneur. C'est ce qui nous a lancé. Il y a des entrepreneurs quand même à différents profils. Des fois, on s'associe ensemble justement pour avoir le côté créatif, le côté plus opérationnel. Ça, c'est ouais. mon profil un petit peu plus, mais c'est ça. Il faut tout le temps qu'il y ait cette étincelle-là, soit dans l'entrepreneur ou dans le groupe d'entrepreneurs, finalement, ouais. pour être capable de se renouveler.
Oui, je crois qu'on peut tous l'avoir parce que même un gestionnaire ou quelqu'un qui semble faire un travail très concret peut avoir vraiment une flamme, tu sais, puis un plaisir très créatif de le faire. Puis je pense que l'entrepreneur, moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je suis dans le milieu de l'entrepreneurship. On est capable de prendre un rêve, une vision, puis doucement de l'incarner, de l'articuler dans le monde, puis de faire que ça devienne du réel. Puis souvent, tu sais, comme dans les milieux spirituels, on peut voir qu'on a beaucoup de vision, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, mais il se passe rien. Parce que dans le fond, on l'incarne pas dans la matière, dans l'économie, dans le monde.
C'est une certaine lucidité, si je peux dire. Tu sais, des fois, le concept est beau, c'est pur, c'est intéressant, mais il faut le rendre commercialement viable, finalement. Il faut le rendre intéressant pour un bassin de population, tu sais, pas juste un petit marché, puis finalement, ça reste de l'artisanat. Sinon, Parle-nous un peu, en fait, de tes projets actuels. Ça se passe comment? Qu'est-ce que tu fais, finalement, là, dans tes deux projets que tu roules encore?
Ah, les deux projets que je roule encore, mon principal, celui qui m'amène le plus de feu de ces temps-ci, c'est la méditation Mana. Ça, c'est une application de méditation et des cours en ligne et aussi une formation professorale puis des formations pour entrepreneurs aussi qui s'en vient.
OK.
C'est vraiment intéressant de prendre l'univers de la méditation. Puis souvent, on connaît juste on a déjà entendu parler de la pleine conscience, le mindfulness. Mais ça, c'est juste une petite dimension de la méditation, mais il y a vraiment plein d'autres approches puis plein d'autres techniques qui sont souvent plus efficaces pour les gens actifs, modernes.
Plus accessible dans notre quotidien, finalement, que de faire une retraite. Là, ouais. L'image, je vais dire, extrême un peu qu'on a, là, ou une retraite en silence pendant 10 jours, ouais. les jambes croisées.
Oui, c'est ça. C'est pas accessible pour tout le monde. Puis notre mental va très, très vite aujourd'hui. Puis on peut pas demander à quelqu'un de juste arrêter son mental ou de s'en détacher. C'est même anxiogène pour la plupart des gens. Bref, il y a vraiment toute une autre gamme de méditation que moi, j'ai été chercher au travers de beaucoup de voyages, au travers de beaucoup de rencontres avec des maîtres, avec différentes traditions. J'ai décodé, j'ai comme rendu ça plus accessible, actuel. Puis là, je mets ça dans une application, je mets ça dans mes enseignements. Puis ça, c'est vraiment excitant parce que c'est démocratiser, dans le fond, des mécanismes de psychologie active. Tu sais, puis
Il y a des techniques qui font leur preuve depuis des centaines, voire des milliers d'années dans certains cas. Puis j'aime le parallèle que tu as pris cette chose de déconnexion, ces concepts-là très spirituels, et tu l'as mis dans la chose à peu près la plus anxiogène qu'on a dans notre quotidien, notre téléphone, nos applications. Il y a toujours, je trouve, un espèce de parallèle là, ou de dualité ici que je trouve intéressante. Un peu comme avec le kombucha qui est comme la recette ancestrale maison, tout ça, qui finalement est dans tous vos bons supermarchés avec un goût qui est accessible. Tout ça, quand j'en ai fait à maison, ça goûtait plus le vinaigre de cidre qu'autre chose, je vais te dire. Et après ça, j'achète la bouteille puis c'est bon, c'est agréable, mais là, j'ai l'impression que tu fais un peu la même chose avec la méditation.
Ouais, c'est de la rendre accessible, la rendre un peu plus sexy, un peu plus actuelle, puis pour que ça corresponde à où ce qu'on est rendu aujourd'hui là, dans notre monde qui va vite, vite, vite.
Est-ce que c'est un compromis pour toi? Parce que j'imagine, tu sais, le concept, on est fan de ça, on veut l'appliquer, des fois, on veut y aller à 200%. De le prendre, de l'amener en 2024, c'est trippant ou c'est comme, ah, regarde, si je veux que tout le monde le fasse, il faut que je laisse aller?
Pas du tout. À vrai dire, c'est que moi, ce que j'ai accumulé, ce que j'ai récolté comme type de méditation, c'est des méditations qui sont très comme efficace ou très... On n'a pas besoin de méditer longtemps. On peut méditer de façon bref et puis avoir des impacts qui sont vraiment plus intéressants que des longues méditations molles qui vont nulle part puis que finalement, on pense à notre liste d'épicerie. Fait que dans le fond, tu sais, il y a des méditations qui vont comme nous ramener, qui vont nous recentrer, qui vont nous ramener dans le cœur, qui vont nous ramener dans le corps, qui vont ouvrir notre sensibilité, qui vont nous mettre en relation avec les autres, qui vont nous mettre en relation dans le monde puis qui vont nous donner de l'élan. C'est qui vont vraiment nous propulser. Puis ça, c'est des méditations qui étaient un petit peu plus discrètes, on pourrait dire, en arrière des traditions. Un peu plus, on pourrait dire, magiques. Là, c'est comme des méditations pour les Jedi. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'on est rendu dans les grandes forces de la polarité sociale, peut-être à incarner un petit peu l'énergie des Jedi.
OK. Donc, on est capable de ramener ça à notre quotidien. Là, tu m'avais perdu un petit peu pendant un moment. Je sentais, ah, c'est peut-être pas pour moi le néophyte de tout ça, mais tu le rends accessible. Si je télécharge l'application, je vais être capable de, je vais dire, pas juste le faire, là, mais de profiter de ces méditations.
Oui, puis même que tu vas avoir du plaisir. C'est ça le bête, là. C'est comme, il faut sortir de l'idée que la méditation, c'est plate, parce que dans le fond, c'est plus vraiment de la méditation ce que je propose. C'est plus comme des postures mentales. Comme okay. Dans le yoga, on fait des postures mm-hmm. physiques. Là, on fait des postures intérieures, mentales. Puis ça nous donne des nouvelles perspectives sur le monde. Puis c'est un peu ça que la neuroscience, ça nous pointe aujourd'hui. Tu sais, comme si tu changes un peu ta façon de penser, ben, tu sais, t'as des nouveaux chemins neuronaux. Tu sais, puis c'est l'imaginaire qui va nous aider à faire ces nouvelles connexions-là intérieures.
Donc, on est à la croisée des chemins entre la science et les sciences, finalement, millénaires, qu'on savait sans savoir pourquoi ça le faisait. Donc là, on est capable de le décortiquer, finalement, avec les outils qu'on a, puis d'en faire une approche plus produit, plus commercialisable. Ouais.
Puis surtout que, dans l'air du temps, on a plus que jamais de besoins. Tu sais, comme le niveau de stress, d'anxiété, genre la maladie, tu sais, comme de tout type, tu sais, comme est vraiment intense. La déconnexion avec la vie, avec la nature, avec la sagesse, c'est comme, waouh, t'as peu, là, on est en train de virer fou, là. Fait qu'on a besoin d'une certaine dose d'introversion, puis de quête, de sens, c'est pour savoir par où on s'en va avec tout ça, t'sais.
Et comment ça se passe à date, justement, je veux dire, la commercialisation, l'adoption de ton programme, de ton application? Est-ce que les gens adhèrent à ça? Est-ce que tu vois que les gens embarquent là, dans la tendance?
Oui, ça fait vraiment plusieurs années là, que j'enseigne la méditation là, depuis les années 2000, comme début 2000. Là. Puis dans le fond, tu sais, comme j'ai développé un style assez accessible. Puis je pense que souvent, il y a des néophytes qui viennent dans mes cours et sont comme, OK, attends un peu, là, je comprends. Ils parlaient de ça, là, je comprends, là, je le vis, là, je le sens. Puis les gens qui ont un peu plus d'expérience, là, sont comme, ah, enfin, là, tu sais, là, c'est plus accessible. Là, je peux l'intégrer dans mon quotidien, dans ma vie. Parce que dans le fond, tu sais, j'utilise beaucoup de métaphores, j'utilise beaucoup de jeux, on pourrait dire, dans l'imaginaire. Fait que ça nous captive, tu sais, puis... On le sent là, que ça fait du bien là, de pouvoir relâcher là, puis d'étendre un peu le corps puis de recentrer l'esprit là, à la bonne place.
Ah ben tu me donnes le goût de l'essayer, ce qui n'était pas chose facile dans le domaine. Je pense qu'à soir, je vais prendre l'application. On va l'essayer, puis j'ai un feeling que je vais apprécier l'expérience. Mm-hmm. Et justement, tu prends ces tendances-là, tu les amènes dans l'ère moderne et ça marche. C'est quoi le secret ou c'est quoi qui fait que tu regardes une tendance, tu regardes quelque chose qui existe déjà depuis des années et tu dis, là, on est prêt pour ça. Là, on va le lancer. Tu sais, quand vous avez lancé Rise, on en parlait tantôt, il n'y avait pas vraiment de kombucha sur le marché, en tout cas en Amérique du Nord, au Canada, et ça a levé, ça a fonctionné au point où, ben là, il y a des dizaines, des centaines, je sais pas combien de marques qui le font, qui ont embarqué dans le pot. Vous avez lancé la tendance. Là, je sens que c'est un peu la même chose pour la méditation. Tu me dis, je prends des idées qui sont là depuis des millénaires, que personne n'avait vraiment vu l'intérêt d'amener, de produitiser, de démocratiser dans notre époque. Et là, ça commence à fonctionner. C'est quoi ton secret pour faire comme, ah ça, on est prêt pour ça?
C'est tellement un beau résumé. Écoute, moi, mon secret, c'est que c'est la méditation. C'est avant de faire Rise, ça faisait 8 ans que je voyageais puis que j'étais dans le monde très bouddhiste, très soufi, chaman. Tu sais, puis j'étais vraiment en train d'explorer l'expansion de conscience. Comment on peut sortir de nos brackets de pensée? Comment on peut changer de perspective sur le monde? Puis, tu sais, on sait, quand on est très, très proche d'un problème, mais on trouve pas la solution. Puis souvent, c'est juste une histoire de perspective. On zoom out un peu, puis on est comme, ah, attends un peu, là, j'avais pas vu les autres éléments autour. Puis là, on fait le puzzle. Puis là, le puzzle se fait. Puis là, tout à coup, on commence à voir l'image. Puis là, on commence à avoir du fun. Puis on continue le puzzle. Puis à un moment donné, on est comme, ah! Puis là, on voit le gros pattern. Puis on dit, ben, si c'est ça, le gros pattern, donc, c'est ça la prochaine phase, le prochain cycle. Fait que dans le fond, tu sais, c'est cette capacité-là de zoomer out, de regarder le problème de vraiment loin, puis de faire, OK, le kombucha, il est en train de devenir complètement fou en Californie, et on n'a pas au Québec, ça va venir tôt ou tard. C'est la même chose pour la méditation. On a un besoin hyper crucial, urgent, tu sais, comme on est en train de se faire mal. Et comme ce type de méditation-là que moi j'explore n'a pas encore été comme mis au grand jour. Donc, je le sais que ça va fitter. Après ça, il y a tout un jeu d'ajuster le goût ou d'ajuster comme le ton dans la méditation pour que ça devienne vraiment un produit comme très accessible. Puis ça, je suis encore en train de raffiner mon produit là, de Mana Méditation. Puis dans le fond, il va être prêt, puis je pense qu'il va être aussi délicieux qu'un kombucha.
Oh, c'est très bien dit. Puis ça nous montre aussi qu'à une époque où on est très dans les chiffres, le data, les données, on fait des études de marché, on veut être sûr de mettre toutes les statistiques de notre côté. Il y a encore la place pour l'intuition, pour dire, regarde, si tu prends du recul, si tu lâches tes études, tes chiffres, tout ça, ou tu vas juste peut-être améliorer quelque chose qui existe déjà, mais tu vas peut-être voir quelque chose, j'ai l'impression, de tellement évident pour quelqu'un qui a pris la peine de monter en haut de la montagne puis de regarder la région complète.
Voilà, puis quand tu le touches, là, c'est cette zone-là d'évidence, là, puis là, t'as un genre de frisson, là, t'as des palpitations, là, puis là, t'es comme, oh! Là, il y a beaucoup d'énergie qui passe. Ça, c'est le drive. Ça, c'est ça qui va comme te pousser à le faire, tu sais, puis qui va faire que tous les autres obstacles, ils vont tomber devant toi.
Et ça donne des idées qui sont plus disruptives, plus innovantes que si t'étais juste parti de ton petit problème quotidien, finalement, que t'as essayé de régler, d'améliorer, mais avec les outils qui étaient autour sur la table.
Écoute, tu sais, moi, j'ose dire que quand on commence à toucher à cette amplitude-là, c'est plus juste ton projet. Ça devient un projet comme collectif, un besoin collectif, puis j'ai l'impression qu'on pourrait dire la nature au complet conspire pour t'aider à réaliser. Ça, c'est vraiment peut-être dans mes fondations spirituelles intérieures, mais je crois que la vie supporte les projets de cœur.
J'aime ça. On va garder l'œil ouvert, on va essayer de garder ça. Puis tu parles de collectivité. Pour terminer, je suis curieux de voir quel genre de gestionnaire t'es. T'as parlé de tes équipes, de t'entourer, tout ça. Ça ressemble à quoi travailler avec Mathieu Galland?
Ouais, c'est pas toujours le fun, je pense.
OK.
Ben, tu sais,
je pensais que c'était zen, justement.
Ouais, non, mais je suis un fonceur, tu sais, puis je suis un créatif, puis j'ai comme une vision claire, tu sais. Fait que souvent, quand on travaille avec moi, ben, il faut comme trouver la bonne type de collaboration. Tu sais, je suis quand même un chef d'orchestre, puis j'ai comme une vision à tenir. Mais dans le fond, aussi, j'adore les gens. Tu sais, j'aime, puis je crois dans le potentiel incroyable des gens. Puis ça, c'est tout le temps cette zone-là à trouver, de voir c'est quoi leur feu. C'est un peu le même feu qui m'habite. Tu sais, je cherche ce feu-là chez les gens. Puis en général, je m'entoure de ces gens-là, tu sais, qui ont un feu puis qui ont du plaisir. Et j'accepte aussi les cycles.
Et ça fait des entreprises passionnées qui avancent vers des nouvelles idées, j'en suis sûr, jusqu'à ce que chacun ait fait son temps là-dedans et on va décupler le potentiel en lançant autre chose. Mathieu,
yes.
Un gros merci d'avoir été avec nous. C'était un super, super entretien. Je suis sûr que ça a fait découvrir plusieurs belles tendances à beaucoup de gens qui nous écoutent ce midi.
Ouais, merci de l'invitation.
Ben, ça fait grandement plaisir. Restez avec nous en attendant votre méditation pour laisser passer la tempête. Annie Boilard, au retour. Restez là.
Qui ne manque jamais, sans biffrer de monologue, sans regret. Penser que tout ça est plus que parfait. Ok, c'est comme ça. On se demande tous comment tout ça finira. On se balance entre Bouddha et blabla. Et moi dans tout ça, je deviens quoi? Je suis KO, je suis pas ok. Non. Ma vie s'ennuie de toi et de tous nos rendez-vous. S'arrêtera. Ok, c'est comme ça. Forcé de vie totalement numérique. Vos modèles de perfection esthétique. Et moi dans tout ça, je deviens quoi? Je suis que ou je suis pas ok, non. Ma vie s'ennuie de toi et de tous nos rendez-vous.
Chasse à l'anse de cœur est de retour. Achetez vos billets à la Place Longueuil dans le secteur des restaurants, entrée numéro 2. Dépanneur 32e, 13181 René Lévesque, Pointe-aux-Trembles. Bonne histoire, dépanneur Carrefour, 801 avenue de la Vétéorée à Sainte-Julie. Tabagie Place Portobello, 7250 boulevard Tachereau-Brossard. Mamzelle Taille Plus, 1105 boulevard Curé-Poirier-Ouest, Longueuil. Bruderie Mamzelle Café, 509 avenue Jules-Choquette, Sainte-Julie. Dépanneur des promenades de l'Est, 9580 rue Notre-Dame-Est, Montréal. L'As de cœur du FM 103.3, une présentation de Linen Chest.
L'Incrédule, votre bistrot de quartier au cœur du Vieux-Longueuil, vous donne une raison de plus de rester sur la Rive-Sud. Vivez en toute simplicité une expérience culinaire raffinée, en famille, entre amis ou entre collègues. Le chef Benjamin Roussel vous fera découvrir les grands classiques français revisités, tels les tartares, la bavette, le risotto, les calmars et les riz de veau. De quoi satisfaire vos envies. Ouvert du mercredi au samedi, l'Incrédule peut devenir complice de vos événements, même de votre mariage. Réservez en ligne www.lincredule.ca.
Vous cherchez une solution pour réduire vos symptômes d'anxiété, de dépression ou pour améliorer votre concentration? Ne cherchez plus. Depuis son établissement en 2012, Neuroperforma propose des services de neurofeedback à ses clients désireux de trouver une alternative non médicamenteuse et non invasive pour améliorer leur bien-être émotionnel et psychologique. Avec 7 points de service à travers le Québec, notre équipe de spécialistes dévoués est là pour vous aider. Neuroperforma, la neurotechnologie au service de votre bien-être.
La Ville de Longueuil désire informer la population grâce au bulletin Ici Longueuil, tous les jours en semaine au FM 103.3 avec des sujets d'information locale. Pour tout savoir sur les services de la Ville, les activités offertes et les primeurs, écoutez Ici Longueuil tous les jours au FM 103.3 ou en rattrapage sur toutes les plus importantes plateformes de balado.
Retrouvez toutes nos nouvelles au fm1033.ca et par nos journalistes et animateurs sur Twitter et LinkedIn.
Tu me hantes toutes les nuits, tu es dans mes songes. Sous mes draps, je sens ta présence. Dans tous mes rêves, tu y danses, y danses. C'est trop tard, je t'appelle en masqué pour entendre ta voix. J'aimerais casser les murs qui nous séparent.
Impossible d'oublier. J'ai voulu refaire ma vie sans toi. Je me suis même demandé mille fois si je pouvais tout oublier, repartir de zéro. Mais pour attendre tout recoller, oublier le mal occasionné, toutes ces larmes que tu as versées, je ne trouve pas les mots. Mais pour attendre raviver cette flamme, pour refaire renaître mon âme. Oui, je suis dans le noir depuis ton départ. Limbisangai, je ne vois qu'un avenir sans toi. Limbisangai, sache que tu me ramènes vers toi. T'oublier, non. Tu m'as donné le plus beau des rêves. J'ai même encore le goût de tes lèvres. Ces souvenirs qui me malmènent me ramènent vers toi. Si tu savais comment je me sens, et ce parfum de toi qui me manque, ces souvenirs qui me malmènent. Songi sangai painayo. Pour attendre à vivre cette flamme, pour refaire renaître mon âme. Oui, je suis dans le noir depuis ton départ. Limbisangai, je ne vois qu'un avenir sans toi. Limbisangai, sache que tout me ramène vers toi.
Qui s'arrête comme si j'étais dans un rêve. Je lance dans les airs une poignée de poussière. Les yeux entrouverts et les mains vers le ciel. Je regarde autour de moi. La vie glisse entre mes doigts. La vie glisse entre mes doigts. Je te prends dans mes bras, je te sers contre moi. Je vois le temps qui s'arrête comme si j'étais dans un rêve. Je regarde autour de moi, la vie glisse entre mes doigts. Je dois trouver le courage pour tout arrêter et vivre ce moment. Je regarde autour de moi, la vie glisse entre mes doigts. Il faut tout arrêter et vivre ce moment. Je regarde autour de moi. La vie glisse entre mes doigts. La vie glisse entre mes doigts. je regarde autour de moi. La vie glisse entre mes doigts.
Développement économique de l'agglomération de Longueuil, fier partenaire de l'entrepreneur branché. Dell, le bras droit en affaires des entreprises de chez nous. Visite delaglo.ca. L'entrepreneur branché se poursuit jusqu'à 13h au FM 103.3 avec Max Trudel.
Rebonjour et un grand merci à Mathieu Galland d'être venu nous allumer un petit peu sur le fait que l'entrepreneuriat, ça n'a pas besoin d'être stressant, puis on est capable de changer le monde, je veux dire, puis d'amener des nouvelles idées là dans nos projets. Donc un grand merci, puis on va poursuivre avec des idées qui sont bien ancrées, des concepts qui sont bien ancrés dans nos entreprises. On parle souvent de relations de travail, on va parler aujourd'hui de relations amoureuses dans les milieux de travail avec Annie Boilard du réseau ANIRH. Annie, bienvenue à l'émission.
Bonjour, Max.
Grand plaisir, comme toujours, de t'avoir avec nous. Et là, un sujet qui va peut-être faire réagir, un sujet où tous doivent avoir des petites histoires, les relations au milieu de travail.
Mmh. Oui, c'est ça. Puis nous, comme entrepreneurs ou comme gestionnaires, parfois, on cogne un petit peu la tête sur les murs à savoir, dois-je intervenir? Est-ce que c'est la vie personnelle des gens? Qu'est-ce que je dois faire? Parfois, nous sommes entrepreneurs et parfois, c'est nous qui sommes dans une relation amoureuse avec un employé. Est-ce que c'est correct, pas correct? Dois-je le dévoiler? Comment dois-je naviguer ça? Donc, c'est de ça qu'on se parle aujourd'hui.
Oui, puis est-ce que c'est différent si la relation est installée avant, je veux dire, la relation de travail? Tu sais, je lance une entreprise avec ma conjointe. Est-ce que c'est différent de devenir conjoint finalement avec quelqu'un qui est dans l'entreprise? J'engage le conjoint d'une employée. Est-ce différent de si finalement les deux employés devenaient conjoints avec le temps, là?
On démystifie tout ça. Allez, rappelons quelques statistiques au Canada, puis c'est la même statistique en Europe. Une personne sur trois dit avoir déjà vécu une expérience amoureuse au travail. Fait que des fois, il y a des gens qui se disent, eh ben voyons donc, un sur trois, c'est beaucoup trop. Mais on rencontre beaucoup de monde, il y a des relations qui se sont initiées sur les lieux du travail. Des fois, après, les gens ont changé d'emploi, mais c'est quand ils rentrent dans les statistiques.
Et quand tu me dis, ont été impliqués, on parle d'être impliqués là, directement, là, je suis la personne dans la relation, pas j'ai vu un collègue qui est en relation.
Non, c'est ça, je suis tombée en amour avec quelqu'un qui était sur le même payroll que moi. C'est ça. Un sur trois au Canada.
Quand même.
Oui. Alors là, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire comme gestionnaire, même comme employé quand on est dans cette situation-là, je vais nous faire quatre scénarios. D'abord, une relation amoureuse entre deux employés de diverses équipes. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre personnes, ne travaille pas dans les mêmes équipes de travail. La réponse, aucun souci, comme gestionnaire, je n'ai rien à faire, comme employé non plus. Je nous donne un autre cas d'espèce. Je tombe en amour avec quelqu'un dans mon équipe de travail. C'est mon collègue. Donc, personne n'est le patron de personne dans ce scénario. Nous sommes collègues. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que nous devons faire? Il n'y a aucune obligation légale. Le gestionnaire n'est pas obligé d'intervenir a priori. Les employés, c'est sur une base volontaire qu'ils vont le dévoiler à leurs collègues. Souvent, on va s'entendre, Max, ça finit par se savoir. Fait que des fois, aussi bien pour les gens de le dévoiler sur une base volontaire, mais sans plus, pour le reste, c'est chacune des parties de décider comment elles veulent gérer ça.
Aucune implication professionnelle, ça ne fait qu'alimenter la machine à rumeurs.
C'est ça. Mon troisième cas d'espèce, je suis employée, je tombe en amour avec mon patron. Moi, suis-je dans le pétrin? La réponse, c'est non. Moi, comme employée, il n'y a pas de souci. Mais mon quatrième cas d'espèce, c'est mon patron tombe aussi en amour avec moi. Donc là, c'est réciproque, là. Le patron, lui, est-il ou est-elle dans les soucis? Puis la réponse, c'est oui. L'enjeu, puis et c'est tout ça, c'est au niveau du conflit d'intérêts. L'enjeu, c'est quand le patron tombe en amour avec un subalterne, tout de suite, là, il y a des drapeaux rouges. Comme gestionnaire, comme entrepreneur, je dois intervenir, que ce soit moi ou quelqu'un que je gère qui est dans cette situation-là. Et l'enjeu, c'est parce que le conflit d'intérêts, c'est le fait qu'on veut pas que c'est la perception pour l'équipe, en lien avec l'équité dans l'équipe, mais aussi, c'est un flagrant possibilité d'inéquité. On va pas demander au gestionnaire de décider l'augmentation salariale de sa copine ou de son copain. On voit, là, ça fonctionne plus. Donc, on doit intervenir quand on en arrive dans ces situations-là. Et souvent, ce qui va se passer pour intervenir, des fois, les gens me demandent, on peut-tu se faire une politique, là, comme quoi les gens n'ont pas le droit de tomber en amour chez nous, dans notre entreprise, ou entre eux, ils n'ont pas le droit de tomber en amour entre eux. La réponse est non. Mais on peut venir encadrer le conflit d'intérêts qui peut découler d'une relation lorsqu'il y a une relation hiérarchique dans l'histoire. Et ça, on va venir tout de suite nommer le fait qu'un, il doit y avoir une le gestionnaire qui est dans l'histoire, là, dans le couple. Il faut qu'il dévoile. Il faut qu'il en parle aux ressources humaines. Il faut qu'il en parle à l'entrepreneur ou à son propre patron. Et là, ça va engendrer une suite de répercussions parce qu'on va vouloir, la première chose que l'entreprise va vouloir faire, de faire le lien hiérarchique qui est aussi le lien amoureux. Fait que le lien amoureux, on peut pas empêcher un cœur d'aimer, mais on peut empêcher quelqu'un d'aimer son subalterne. Donc, on va essayer de déplacer, si possible, le gestionnaire. Pas toujours facile. Souvent, c'est l'employé qu'on déplace sur une autre équipe de travail, un autre corps de travail, d'autres responsabilités pour éviter qu'il y ait ce chevauchement-là. Est-ce que tu as déjà vécu ça, Max?
Mais j'ai jamais vécu ça et ça m'amène un peu vers ma question. Est-ce qu'il y a une notion de, je veux dire, de taille d'entreprise, peut-être aussi dans la réflexion qu'on a en ce moment? Ben, je me dis, oui, dans une grande entreprise, j'ai des équipes de travail, je dois être équitable avec tout le monde. Si on parle du café du coin où t'as le propriétaire, deux, trois employés et là, ben, il y a une histoire d'amour qui se porte, ben, notre devoir d'équité, de transparence, de tout ça, tombe peut-être un petit peu parce que de toute façon, tout est un petit peu géré de manière, je vais dire, plus intuitive à la base. Et ben, tu ne peux pas déplacer quelqu'un en dehors de ta gestion, si je peux dire, s'il y a un seul gestionnaire pour toute l'équipe. Là. Donc, est-ce qu'il y a un niveau, une taille d'entreprise où là, on doit commencer à avoir cette réflexion-là, puis en dessous de ça, on se dit, ben c'est plus collégial, puis on laisse un peu plus aller?
Ouais, c'est ça. On aimerait ça. Hein. La réponse est non, Max, parce que tout ce qui est l'obligation de loyauté envers l'employeur, et puis le conflit d'intérêts, tout paraît simple jusqu'à ce que ça devienne compliqué. Puis là, je vais te dire par où la complication rentre. Peu importe la taille de l'entreprise, même si c'est un petit café puis sont trois employés, là, ça rentre souvent par le harcèlement. Parce qu'on va s'entendre, même si nous sommes sur les heures de grande écoute à ton micro, Max. Quand il y a une relation amoureuse qui s'initie, comme à la toute fin aussi après une rupture amoureuse, les comportements qui vont être reproduits s'apparentent beaucoup à des comportements de harcèlement. Si c'est pas réciproque, ça va être perçu comme du harcèlement. Et là, ce qu'on se disait de façon bonne enfante, ben nous on est un peu petits, puis nous ça s'applique pas. Ben, les règles sur le harcèlement vont s'appliquer à tout le monde, toutes les entreprises. Tu me suis? Est-ce que
je te suis?
Ça fait du sens quand on nomme ça. Donc, tantôt, tu disais, si on peut pas déplacer la personne, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a un gestionnaire qui tombe en amour avec un amour réciproque avec une employée. C'est un petit café, là. Il n'y a pas d'autre chef de travail. Je peux pas déplacer personne. Minimalement, quand tu vas être question, par exemple, d'évaluer l'employé, de gérer son augmentation salariale, de gérer, par exemple, la sous-performance, on va impliquer un autre gestionnaire, minimalement le propriétaire, là, dans l'histoire, pour venir donner de l'objectivité dans la démarche. C'est ça, vraiment ça, le point d'Achille. C'est le fait que le patron peut pas être l'amoureux ou la patronne, là, l'amoureuse et en même temps gestionnaire. Fait qu'on va venir diminuer le pouvoir du gestionnaire dans ce trio-là, dans cette relation-là. Max, je nous partage d'autres idées parce que l'émission, hein, entrepreneur branché, parfois c'est l'entrepreneur. Et ça se voit aussi. Mm-hmm. L'entrepreneur a engagé quelqu'un pour lequel il n'y avait pas de relation avant. Puis là, il y a quelque chose qui se développe, puis c'est les mutuelles. Et plus c'est haut dans la hiérarchie, comme là, l'entrepreneur président de l'entreprise, plus les règles qui vont entourer l'encadrement de la relation amoureuse sont toutes sauf romantiques. Et plus c'est gros, plus c'est significatif, plus c'est vrai ce que je vais nommer. Donc, on va aller chercher, performant, on va faire signer des consentements avant les tout premiers balbutiements. Là, avant le premier baiser, il va falloir qu'on valide, souvent avec un témoin, avec un formulaire, qu'on va s'assurer que tout le monde est confortable dans l'histoire pour éviter la perception de harcèlement. Et ça, c'est rabat-joie. C'est plate quand je te nomme ça. Il reste que c'est la réalité. Puis plus c'est des postes stratégiques puis des grosses entreprises, plus que je te nomme est vrai.
Donc, il faut assurer la transparence, l'encadrement, tout ça. Qu'est-ce qui est le mieux de ton expérience? Est-ce que l'entrepreneur devrait prendre ça dans ses mains et dire, regarde, je vais faire signer un formulaire parce que j'ai envie qu'on s'embrasse à la fin de la soirée? Ou est-ce que je vais passer peut-être par les ressources humaines, dire, regarde, on est pris avec ça un peu, puis te dépersonnaliser un petit peu de la chose et laisser ton équipe le gérer?
Alors, s'il y a ressources humaines dans l'histoire, oui, passer par les ressources humaines, ça va leur permettre de réitérer les politiques de harcèlement, tant à l'entrepreneur qu'à l'employé qui est courtisé dans l'histoire. Ça va permettre aussi de valider le consentement et de partager de l'information sur la suite des choses. Parce que s'il y a une relation qui se développe, souvent, c'est rarement l'entrepreneur qui va vendre son entreprise. Il va y avoir un changement de la dynamique, mais c'est souvent autour de l'employé. Et peut-être que ça va faire que l'employé va vouloir évoluer à long terme dans une autre organisation. Donc, c'est tout ça là qu'il faut avoir comme échange avec l'employé courtisé, si on veut. Hein? Harcèlement. Alors, la suite de l'histoire, comment ça va se passer? On va aller chercher le consentement. Puis là, il y aura la première soirée.
Je te suis. Maintenant qu'on a encadré un peu, j'ai le goût de voir un peu la réalité. Là, on s'entend que la réalité du travail a beaucoup changé. Et je comprends tout à fait. On compare toujours un partenariat d'affaires avec un mariage en disant un peu à la blague, mais tu passes quand même plus de temps avec ton partenaire, souvent d'affaires, qu'avec ton mari, ta femme. Est-ce que ça a changé depuis que, bon, on travaille à distance, on est de la maison, on travaille hybride, tout ça, on croise moins nos collègues. Est-ce qu'il y a moins d'histoires d'amour, justement, qui se développent parce que, bon, ce n'est plus les gens que tu croises le plus souvent dans la vie, ou est-ce que les statistiques se ressemblent encore?
Moi, je n'ai pas vu de statistiques récentes qui démontraient soit qu'il y a eu un maintien ou une dégradation ou une diminution des relations amoureuses qui se créent au milieu de travail. Par contre, ce que je vois dans la réalité, c'est qu'il y a des gens, il y a des relations amoureuses qui se créent, mais que parfois les gens ne le savent pas, ne le voient plus. Parce que alors que nous partageons les mêmes bureaux de travail, les gens s'en rendaient compte, tu sais, que c'était fait en fin de semaine. Ces deux-là, ils font tout le temps la même affaire.
Ils font tout le temps la même affaire, mais ils ont un grand sourire quand tu leur poses la question.
Ils ont les mêmes plans de vacances, ils débarquent la même voiture le matin, les gens finissaient par s'en rendre compte. Alors, quand on disait tantôt la statistique de 1 sur 3, un couple sur 3 qui s'est formé dans le milieu de travail, les gens disaient « ouais, ça fait du sens ». Aujourd'hui, ma perception, c'est que, je ne sais pas s'il y a, comme je disais, il n'y a pas de statistique à savoir s'il y en a plus ou moins, mais ce que je perçois, c'est qu'il y en a, plus qui ne sont pas reconnus des collègues, les gens ne savent pas que les gens sont en relation. Et ça a de l'incidence parce que ça vient bouger toute la relation au niveau des habiletés politiques, au niveau de l'influence dans l'organisation. Donc, des fois, il faut comme étirer un petit peu ses antennes pour capter ces infos. On peut imaginer, hein, comme on ne voit plus les gens, on ne sait pas. Ça nous amène aussi toute la notion, quand on soit en télétravail ou en présentiel, Max, il y a des journées où on va être tout le monde ensemble. Dans les bonnes pratiques, là, ça fait drôle de réitérer ça, on dirait, voyons, c'est bien évident, mais on essaie toujours d'être discret dans les milieux de travail. Donc, les gens, on peut le dire là, que les gens sont en couple, mais il n'y a pas de manifestation romantique au travail. Fait qu'il n'y a pas de petit minouchage, on se tient pas la main dans les corridors, pas de petits bisous dans les réunions, puis rien dans les coins noirs. Hein? On s'entend, parce que moi, comme ressources humaines, je peux dire qu'on en voit de toutes les couleurs. Quand nous sommes au travail, même s'il y a beaucoup de télétravail puis qu'on vient pas souvent en présentiel, on adopte des comportements professionnels comme entre n'importe quel collègue de travail.
Comme dans toute situation où on est en public, je veux dire normalement, on se garde une petite gêne qu'on n'a peut-être pas à la maison, là.
Oui, absolument.
On devrait. Disons, on devrait.
Puis là, il y a des gens qui nous écoutent et qui font « Ben voyons donc, je peux pas croire qu'on dit ça ». Puis il y a des gens qui disent « Ouais, le parti de Noël, il y a 2 ans, ouais, c'est pertinent de le redire. Oui. » Alors, hey Max, est-ce que tu as déjà vu ça, les relations amoureuses? Tu disais tantôt, tu en as peu vu dans ta vie, dans ton entreprise.
Non, j'ai pas vu beaucoup de relations, je veux dire, sérieuses. Quelques-unes, là, sur une vingtaine d'années, je te dirais. Mais je les compte sur les doigts d'une main. Et honnêtement, ben, comme je te dis, je suis plus en PME, je suis plus en plus petite peu plus petite entreprise, donc c'est sûr qu'à la base, il y a moins de monde. Tout le monde peut-être se connaît, puis on est quand même dans des milieux assez, assez masculins en technologie aussi. Regarde, je ne juge pas là, les choix de chacun, mais disons qu'il y a peut-être moins d'opportunités aussi pour certains.
Oui, puis ce que je sens aussi, c'est qu'il y a des industries qui sont plus propices à ça que d'autres. Sans avoir de résultats scientifiques derrière ce que je vais dire, parce que j'en ai parlé dans les médias de ce sujet-là récemment, puis il y a des gens qui me disaient dans le monde des communications, il paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples. Les policiers et policières, il y a beaucoup de couples qui se forment entre eux parce qu'eux, ils ont des restrictions, ils ne peuvent pas avoir même des relations d'amitié avec n'importe qui. Là. Ils ne peuvent pas entretenir une relation avec les Hells Angels, par exemple. Je dis ça comme ça, là.
C'est plus encadré, mais on a plus de temps aussi, je pense, puis on passe plus de temps à parler qu'évidemment caché derrière une machine dans le fond de la shop. Donc, je comprends plus le concept. Malheureusement, je pense qu'on va pouvoir en reparler, mais c'est tout le temps qu'on avait ce midi.
Fait plaisir, Max.
Un grand merci, Annie. Un grand merci aussi à Mathieu Galland d'être venu nous parler un petit peu plus tôt. Restez sur nos ondes. L'As de cœur qui suit dans quelques minutes.
Développement économique de l'agglomération de Longueuil, fier partenaire de l'entrepreneur branché. Dell, le bras droit en affaires des entreprises de chez nous. Visite delaglo.ca.
Avec une tank vide, je pourrais encore rouler au moins une heure. Avec une tank vide, je pourrais encore rouler au moins une heure. Et avec un seul frein et avec un seul phare, je me rendrai pas très loin, il se fait déjà tard. Pouvoir rouler au moins une heure.
samedi, jouez avec nous au Bingo Radio Double du FM 103.3. Le Bingo Radio pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent, comptant. Ce samedi, c'est Bingo Double. Ça veut dire 5 000 $ à gagner à 10h et 5 000 $ à gagner à 13h. Tous les détails au fm103.3.ca dans l'onglet Bingo Radio. Bonne chance!
Vous avez plus de 40 ans? Vous êtes à la recherche d'un emploi et vivez à Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Hubert, Saint-Bruno, Greenfield Park ou Ville-le-Moine? Vision Travail est un organisme qui offre des services gratuits pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Nous avons également un programme pour les cadres et professionnels de tout âge. Intéressé? Contactez le 450-651-8747 ou visitez visiontravail.ca. Le succès de votre recherche d'emploi passe par nous.
À la recherche des meilleurs services en ville pour vos pièces d'auto usagées? Ne cherchez plus.
Chez Pape Pièces d'Auto, nous offrons des pièces garanties jusqu'à 3 mois sur plus de 2500 voitures en inventaire. Tous les modèles, toutes les pièces.
Et c'est pas tout. Découvrez notre sélection de plus de 300 paires de pneus d'été à partir de 250 $. Des grandes marques à prix imbattable.
Chez Pape Pièces d'Auto, payez au moins 50% moins cher qu'ailleurs. Pour une pièce, une équipe professionnelle vous attend. Appelez-nous au 450-676-1577 ou rendez-vous au 95 75 Grande Allée à Brossard. Visitez notre site web patauto.com dès maintenant.
Moi, ce que j'aime le matin, c'est mon café et un bon bagel au sésame chaud frais du jour avec du fromage à la crème. De temps en temps, c'est un bagel carotte raisin avec juste du beurre. Avant, j'allais m'en chercher à Montréal, mais là, plus besoin de traverser le pont. Brossard Bagel m'offre mes bagels préférés, façonnés à la main et cuits au four à bois à deux pas de chez moi à Greenfield Park.